Cette semaine, la France a commémoré les 80 ans du débarquement des Alliés en Normandie pour mettre fin à 5 années de domination du nazisme dans notre pays et en Europe. Cela a été l'occasion de réentendre l'histoire de cette longue journée de la part de ceux qui sont encore vivants. Des Américains sont venus cette semaine sauter en parachute au-dessus des côtes normandes pour rendre hommage à ceux qui ont été largués en 1944, juste avant que les navires déversent leurs milliers de soldats. Un de nos amis américains a sauté en parachute avec son fils cette année. Et cela m'a beaucoup touchée. En effet, 80 ans, c'est plus que 3 générations. Les vétérans qui avaient 18 ans ou 19 ans à l'époque en ont aujourd'hui 98 ou 99. Nous arrivons donc au temps de l'oubli. Oubli que nous avons été un pays en guerre et que la plus grande aspiration de tous pendant 6 ans, ça a été d'être en paix. Oubli que nous sommes en paix depuis 79 ans. Oubli de tous les efforts de réconciliation que l'Allemagne et la France ont entrepris après cette guerre. Il y en avait déjà eu des efforts après la Première Guerre mondiale, mais cela n'avait pas suffi. Et cette deuxième guerre était très différente de la première, s'appuyant sur l'idéologie mortifère de l'antisémitisme. Les Juifs devaient être éradiqués, ainsi que d'autres minorités, les Roms, les homosexuels, etc. Je suis un pur produit de cette réconciliation. J'ai eu l'occasion de faire le baptême de la fille d'une amie allemande que je me suis faite lors des échanges. Ce baptême s'était fait en 2009. Et quand j'étais en chair, j'ai pensé à mes deux grands-pères qui étaient dans des réseaux de résistance. Oui, je suis fière d'appartenir à cette Europe qui nous a permis de rester en paix dans la durée la plus longue de l'histoire de France. Cette semaine aussi, j'ai reçu mon enveloppe pour aller voter. Je fais partie des grandes privilégiées de ce monde de pouvoir voter. Alors là, certains d'entre vous se disent « Attention, elle va parler politique. » Oui, oui. De la même manière que mon grand-père, pasteur, a pris position contre le nazisme dans ses prédications, de la même manière, je prends position aujourd'hui contre tous ceux qui cherchent à diviser les humains les uns contre les autres et à exclure une partie de la population française à cause notamment de leur religion. À l'époque, le travail de réconciliation a porté notamment sur le fait que nous ne devions pas identifier tous les Allemands au nazisme. Nous devons faire ce travail aujourd'hui sur notre manière de considérer les musulmans. On ne doit pas les amalgamer à l'islamisme. Savons-nous que les humiliations qu'ils subissent dans notre pays sont telles que beaucoup de jeunes adultes nés en France, formés, diplômés, la quittent pour chercher un meilleur accueil ailleurs. Nos luttes aujourd'hui sont différentes d'il y a 80 ans, mais notre objectif est le même, apprendre à vivre ensemble dans la réalité qui est la nôtre aujourd'hui. Et selon le commandement que nous donne la Bible, aime ton prochain comme toi-même, qu'il soit juif, musulman, étranger ou simplement différent de moi. Après 80 ans, certains oublient que l'extrême droite a été le terreau des agissements d'Hitler, Aucune radicalité, de droite comme de gauche, n'a jamais conduit à des résultats respectant les peuples. Dans les listes, toutes les listes que j'ai lues, dans cette enveloppe que j'ai reçue, certains veulent nous faire croire qu'il y a des solutions simples pour des problèmes qui seraient simples. Mais le monde est bien plus complexe aujourd'hui, avec la mondialisation, et l'Europe nous aide évidemment à être plus fort face à cette mondialisation, la numérisation partout et pour tout, les communications effrénées et la planète qui révèle ses limites. Et puis, on a vite fait de rejeter la faute de tout ce qui nous dérange sur les autres. Les immigrés sont les boucs émissaires pris comme enjeu dans toutes les élections en France. Alors, dans cette situation, la Bible ne nous dit pas ce qu'il faut faire, mais elle nous aide à réfléchir. Le vivre ensemble n'a jamais été facile. Il n'y a pas d'époque dorée. Mais chaque génération est devant ce défi de vivre avec les autres dans l'époque qui est la sienne. Ce vivre ensemble, c'est la raison d'être de Jésus. Une raison d'être universelle. Et vous avez entendu, même lui va être remis en cause. Par qui ? Par sa famille, qui vient le chercher, car ses proches disent qu'il a perdu la tête. Par les chefs religieux, qui mettent en question l'autorité avec lesquelles il guérit des malades et chasse les démons. On va dire de lui qu'il est au service du démon, c'est-à-dire des puissances mauvaises et mortifères. On se sert d'un pouvoir mauvais pour disqualifier l'autorité de Jésus. Accuser l'autre d'être possédé est un procédé connu. On dit souvent, quand tu veux te débarrasser de ton chien, tu l'accuses d'avoir la rage. Et ce texte m'a fait penser à toutes les manipulations dont l'humain est capable, autrefois comme aujourd'hui. Manipulation, fausses informations, interprétations libres des événements, propagande pour servir son pouvoir. Et c'est à nous de les discerner, de les disséquer, d'aller chercher les vraies informations. Dans cette accusation, comment Jésus réagit-il ? Il ne s'enfuit pas. Il ne se sent pas disqualifié. Et même, non seulement il n'entre pas dans le jeu des interlocuteurs, mais il les appelle pour leur parler. Et il leur parle avec des images, des paraboles. Il les fit venir et leur disait en paraboles: si un royaume est divisé contre lui-même, il ne peut se maintenir. Jésus invite à prendre du recul et à réfléchir. Prenons cette invitation pour nous-mêmes. Dans la vie que nous menons, nous avons du mal à nous poser, souvent, pour réfléchir. Comme si notre capacité à penser les choses et les situations qui nous arrivent ne nous servait plus à rien. Comme si penser, nous n'en voyons plus l'utilité. Et puis il y a aussi le fait que peut-être que c'est confortable parfois que d'autres pensent à notre place, mais il y a aussi le fait qu'on se laisse entraîner dans le mouvement de la vie et on n'arrive pas à l'arrêter. Mais Jésus nous invite à développer notre capacité de réflexion. Il nous invite à être cohérents dans cette démonstration qu'il fait sur Satan et le royaume. Il pousse la logique jusqu'au bout. Il dit, mais comment une puissance mauvaise peut-elle vouloir se débarrasser d'une puissance qu'elle juge aussi étant mauvaise? Cette puissance se détruit elle-même. Alors, dans cet encouragement à réfléchir, il y a l'événement de la croix qui se pose à nous. Comment voyons-nous cet événement? Qu'est-ce que cela nous fait qu'un homme soit mort par amour et qu'il ait été revu vivant par ses amis? Qu'est-ce que cela nous apprend sur Dieu et sur nous? L'apôtre Paul a fait de cette réflexion le centre de son message. Dans ses lettres, il ne parle pas de la vie de Jésus, de ses paroles. Mais l'événement de la croix structure toute sa pensée. Et elle la structure vers l'espérance. C'est pourquoi nous ne perdons pas courage. Même si notre être physique se détruit peu à peu, notre être intérieur se renouvelle de jour en jour. Nous portons notre attention non pas sur ce qui est visible, mais sur ce qui est invisible. Ce qui est visible est provisoire, mais ce qui est invisible est éternel. L'invisible, c'est notamment la résurrection que Paul mentionne plus haut et l'espérance qu'elle nous procure. Penser que la mort est surmontée, c'est changer de perspective. Et à partir de là, notre capacité de penser peut se déployer dans l'espérance. Cette semaine encore, un troisième événement me permet d'insister sur l'espérance. Un très grand théologien allemand, Jürgen Moltmann, est mort le 3 juin à 98 ans. Il était le théologien de l'espérance. Et il a écrit plusieurs livres à ce sujet. Ce qu'il écrit redonne courage. Il a été prisonnier de guerre en 1944 et il s'est converti en prison, en Belgique, grâce aux aumôniers. Et en 2018, il a fait un dernier livre qui s'intitule « De commencement en recommencement ». Je le cite dans une des interviews du journal Réforme de cette époque. De 2018. L'espérance chrétienne est la puissance qui, des ombres de la mort, fait renaître la vie. Elle est la puissance de commencer à nouveau là où le péché avait rendu la vie impossible. Car elle est l'esprit de la résurrection d'un homme trahi, maltraité et abandonné, le Christ. La fin du Christ sur la croix du Golgotha, cette fin sans issue, est devenue pour lui le véritable commencement. Restons ancrés dans cette espérance. Qu'elle guide nos choix, alors aujourd'hui en allant voter, mais aussi évidemment dans les autres jours qui vont suivre. Cette espérance permet de prendre les choses avec du recul, avec autre chose que de la noirceur et du pessimisme. Et Moltmann ajoute, l'espérance chrétienne, c'est en fait l'espérance que Dieu place dans les humains. Nous sommes l'espérance de Dieu pour sa terre et pour sa création. Alors soyons à la hauteur que l'espérance, à la hauteur de l'espérance que Dieu met en nous. Amen.